prochain invité, M. Rémi Quirion, il est scientifique en chef du Québec. Quel beau titre, honnêtement. Vous êtes le scientifique en chef du Québec. Ça se met bien, ça, sur une carte d'affaires. Comment allez-vous, M. Quirion?
Oui, très bien, vous.
Hey, ça va très bien. Je savais pas qu'on avait notre scientifique en chef au Québec, mais je suis bien content de vous parler ce matin parce que...
Merci. Ça fait plusieurs années. Ça fait 8 ans maintenant.
Ben, 8 ans, parfait. Ça fait quoi un scientifique en chef d'une province?
Il y a différents rôles, mais je dirais peut-être le plus important, surtout présentement en période de pandémie, c'est d'aviser le gouvernement du Québec, là, tout ce qui est recherche et innovation. Donc, quand il y a des urgences ou si on parle, par exemple, des changements climatiques, qu'est-ce qu'on devrait faire? Fait qu'on, moi, je donne des suggestions, je fais des avis. Par la suite, bien sûr, c'est le gouvernement, c'est le politique qui décide. On est un peu plus impliqué là-dedans, bien sûr, depuis quelques semaines avec la pandémie COVID. Donc, mais on est très près du gouvernement de donner des avis sur différents sujets.
Et vous, contrairement à bien d'autres là, qui sont comme genre des rats de laboratoire puis qui ils taponnent dans leur formule scientifique, vous avez pas peur d'aller publiquement puis de remettre les gens à l'ordre quand besoin se fait sentir?
Ben, ça fait partie aussi de mon travail. Là, on appelle ça tout le volet que j'appellerais science et société, d'informer le public, d'informer nos concitoyens, de dire, ben là, c'est probablement une fausse nouvelle, faites attention, consultez des sites web de qualité. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, là, avec la pandémie COVID.
Bon. Avez-vous comme un genre de top 5 ou top 10 fake news scientifiques qu'on peut voir sur le web ces jours-ci, vous?
Ben, les médicaments miracles, c'est probablement le premier, là. Il y a énormément de suggestions sur le web. Ah, moi, manger telle chose, ça va guérir tout le monde. Prenez de l'alcool, ça va guérir. Même la chloroquine, un médicament qu'on parle beaucoup, il reste beaucoup de recherches à faire avant de savoir est-ce que c'est vraiment efficace ou non. Donc, tous ces médicaments miracles, malheureusement, on n'en aura pas. Et avant d'avoir un vaccin, ça va probablement prendre une année, là. Donc, il y a du travail à faire.
Alors, l'hydrochloroquine dont on parle beaucoup, là, qui aurait des propriétés anti-inflammatoires, tout le monde pense que c'est ça qui va nous sauver. Vous dites, vous, là, attention, on n'est pas rendu là.
Faut faire attention. C'est pas le miracle que M. Trump, le président Trump, a mentionné, là. Donc, il faut faire de la recherche, voir quels sont les effets vraiment chez des patients atteints par le virus de la COVID. De démontrer qu'il y a un effet, parce que c'est un médicament qui a quand même beaucoup d'effets secondaires, des effets cardiaques assez importants, des effets aussi, par exemple, en cécité sur la rétine. Donc, c'est un médicament là qui a déjà causé en Europe quelques mortalités, là, parce que les gens l'ont pris, ils se sont dit « on va prendre ça, on va guérir », mais ça n'a pas marché. Finalement, ça les a tués. Donc, il faut faire de la recherche de ce côté-là. Il y a aussi, lorsque nous dirigeons d'autres fausses nouvelles, si on veut, nos dirigeants, nos grands dirigeants, je dirais par exemple le président des États-Unis, le président du Brésil, le premier ministre d'Angleterre, qui disent « Ah, c'est juste une petite grippe ». Ben, c'est pas juste une petite grippe, c'est plus que ça. Donc, quand ces gens-là disent « Ah, ben moi, je suis prêt à donner la main à tout le monde et tout ça », ben ça donne pas le bon exemple non plus à nos concitoyens. Donc, faut faire attention et aller vers des sites validés. Ça peut être le site Santé publique du gouvernement du Québec. Nous, on a un site web aussi, scientifique en chef. Le site de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, aller vers des sites où l'information est vraiment validée.
OK. L'autre question que j'aurais, c'est par rapport à un autre médicament. J'en ai parlé avec un cardiologue, Dr Tardif, qui me parlait de la colchicine, un médicament qui s'attaque à la goutte. Puis là, on est en train de faire des essais cliniques avec des patients. Ça va pas guérir du coronavirus, mais ça empêcherait peut-être l'inflammation au niveau des poumons. Ça transformerait le coronavirus de virus en rhume.
C'est un peu la même, finalement, l'hypothèse de travail en arrière, c'est un peu comme la chloroquine, c'est un peu les deux la même chose, ils ont diminué l'inflammation causée par le virus qui conduit, dans certains cas, à la mortalité, à cause des problèmes pulmonaires. Donc, la colchicine, pas le même, ça ne fonctionne pas de la même façon que la chloroquine, mais c'est un peu l'approche aussi anti-inflammatoire. Donc là, Jean-Claude Tardif, que je connais bien, lui, a démarré une étude clinique. On va voir si ça fonctionne. Il avait démontré il y a une année là, que ça fonctionnait avec la colchicine, pouvait bien fonctionner dans le cas de certaines maladies cardiaques. Donc oui, pour la goutte, c'est bien établi. Mais étant donné que l'inflammation est impliquée dans plusieurs pathologies, ben peut-être que la colchicine pourrait s'avérer intéressante. Mais encore une fois, son étude va le démontrer d'ici quelques mois. Là.
OK. Là, moi, je vais à l'épicerie, là, M. Quirion. Puis là, je rencontre des gens qui ont un masque attaché jusqu'en arrière de la tête, puis qui ont des gants, puis des fois deux paires de gants pour se protéger. Bonne idée, mauvaise idée?
C'est pas une mauvaise idée. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Probablement pas, si on fait attention. Ce qui fonctionne le mieux à date, qu'on connaît, là, à partir de ce qui s'est passé en Asie et maintenant en Europe, c'est la distanciation sociale. Donc, c'est de rester à distance des personnes. Est-ce que le masque est très efficace ou les gants? Peut-être pas, mais je dirais que ça peut aider peut-être cette personne-là par rapport à son anxiété. Hein, c'est sûr que tout le monde, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles sur la COVID, et plus on entend, plus des fois ça génère l'anxiété chez certaines personnes. Donc, si ça peut les aider à se calmer un petit peu, à se sentir plus en sécurité, ben peut-être que c'est bénéfique pour eux dans ce cas-là, pas nécessairement relié à la COVID. Là.
OK. De dire que c'est juste les vieilles personnes qui vont attraper ça, c'est pas vrai non plus.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et là où c'est un peu dangereux, c'est que souvent, c'est les personnes plus jeunes, en particulier les adolescents, les jeunes adultes, ben, ils sont plus asymptomatiques. Donc, ils n'ont pas vraiment de symptômes ou c'est mineur. Donc, ils se disent, moi, j'ai rien. Et là, ils continuent à avoir plein de monde. Et là, ils vont infecter plein de gens. Donc, finalement, c'est souvent, là, dire on veut isoler un peu plus les personnes âgées parce que c'est sûr qu'ils sont plus fragiles en termes de mortalité, par exemple, mais c'est pas eux qui transmettent plus le virus, là. C'est peut-être l'inverse. Il faut protéger une personne âgée contre une infection qui pourrait venir de personnes plus jeunes. Mais tout le monde peut être affecté par le virus.
OK. Les gens qui reviennent de voyage, on recommande l'isolement. On impose une période de 14 jours d'isolement, mais là, après ça, c'est plus clair. Là. Vous pouvez aller prendre une marche, vous pouvez aller prendre une marche. C'est quoi le fond de l'histoire, d'après vous?
C'est certain que le 14 jours, c'est une moyenne, je dirais. Là. Donc, c'est pas absolu, absolu. Donc, oui, après 14 jours, la période de confinement, ça peut être relâché. Je pense qu'il faut continuer quand même à faire attention. Oui, on peut sortir, aller prendre des marches, mais garder encore une fois cette distanciation sociale-là, au moins là, pour un certain temps, parce qu'on ne connaît pas encore tout les allers-retours de ce virus-là. C'est encore assez nouveau. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième phase éventuellement de pathologie? On ne sait pas encore. Fait que c'est mieux de pas trop prendre de risques, mais de toute façon, ces jours-ci, je dois dire que même après le confinement, les restaurants sont fermés, les théâtres, les cinémas. Fait que il n'y a pas beaucoup de possibilités d'aller voir plein de monde. Là. Mais c'est pour être prudent quand même après les 14 jours.
Une deuxième vague, ça semble donc inquiéter les gens. Puis on dirait qu'il n'y a personne qui ose se mouiller pour nous dire la vérité. C'est possible une deuxième, une troisième vague? Est-ce que ça va être ça qui va se passer dans les fêtes? Ou
C'est possible si on... Si on compare ça à des pandémies avec l'influenza, le virus de la grippe habituelle, là, c'est possible qu'il y ait une deuxième vague. On ne sait pas vraiment parce qu'encore une fois, c'est pas assez avancé. On est encore presque tous les pays dans la première vague. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'elle va être très forte? Je pense que présentement, il n'y a pas personne qui peut vraiment le dire. Là. Mais ce qu'on espère, par contre, c'est ce qu'on fait maintenant, ce qu'on apprend de ce qu'on fait maintenant. On va être mieux préparé s'il y a une deuxième vague ou s'il y a un autre virus de type COVID qui arrive dans un an. Donc, on va être mieux équipé.
C'est possible, ça? Un autre virus qu'on ne connaît pas, aussi pire que celui-là qui nous apparaît soudainement?
Malheureusement, je dirais malheureusement, oui. Puis d'après certains experts en virologie, comme le docteur Gobinger, là, qui est à l'Université Laval, lui, il nous dit même là, que le virus actuel n'est pas très dangereux. On peut s'attendre à en avoir des pas mal pires que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se préparer. Ce qu'on fait ici au Québec, je pense qu'il est important, c'est d'avoir des infrastructures pour être certain, par exemple, être capable de produire des médicaments, davantage de médicaments ici, être capable de produire des vaccins dans la région de Québec. Il y a des centres là-bas, des centres de recherche et des industries là qui sont là-dessus. Il y a eu des investissements importants dans une compagnie. Donc, vraiment s'assurer qu'on va maintenir des infrastructures de grande qualité pour être mieux préparé s'il y en a un autre. C'est un peu, je dirais, comme tremblement de terre à San Francisco. Hein, les experts dans ce domaine-là disent, oui, il va y en avoir un autre. On ne sait pas quand, quand ça va arriver. Est-ce qu'il va être très grave ou non? On ne sait pas non plus. Mais je pense que de dire qu'il n'y en aura pas d'autres après la COVID, je pense que c'est une erreur. Il va probablement en avoir d'autres dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Mais il faut être bien préparé dans le futur pour mieux répondre lorsqu'arrivera une pandémie.
Comment est-ce qu'on peut se préparer?
Ben, je pense que juste ce qu'on apprend maintenant, s'assurer aussi qu'on continue à investir dans l'aspect de recherche, mieux qu'on prend les actions de ces virus-là, comment ça fonctionne, aussi en termes d'infrastructures, donc comme je disais, là, pour la production de médicaments localement, pour la production de vaccins, et aussi dans notre système de santé, d'être mieux préparé, donc avoir, oui, entreposé là, des jaquettes, des masques, des respirateurs, ce genre de choses-là, être mieux préparé s'il en arrive un autre.
Tant mieux s'il n'y en arrive pas. Oui, tant mieux, évidemment. On est en discussion avec M. Rémy Quirion. Il est le scientifique en chef du Québec. D'après vous, là, combien en pourcentage au Québec, combien de population en pourcentage va contracter le virus COVID-19?
C'est aussi difficile à dire d'après ce qu'on voit dans différents pays du monde. Là, ça peut aller entre 3-4 % jusqu'à 20-25 %, donc assez élevé. C'est probablement, on n'a pas encore là, j'ai pas de réponse absolue parce qu'on n'a pas testé tout le monde. On teste encore les gens qui ont des symptômes, une fièvre, qui ont mal à la tête, etc., etc., ou qui reviennent de voyage. L'idéal pour avoir une bonne réponse pour ça, ce serait de tester tout le monde. Je dirais ce qu'il y a, parce qu'il y en a probablement, ou il y en a certainement, parmi nous qui sont positifs et qui ne savent pas. Parce que les symptômes sont trop bénins. Donc, c'est sûr que ça change le pourcentage là, de population qui est infectée. Ceux qui vont vraiment avoir des problèmes très importants, être hospitalisés aux soins intensifs et par la suite, c'est un certain nombre d'essais, là, le pourcentage à date au Québec est quand même bien. C'est quand même bas pour le nombre de cas qui ont testé positifs. Donc, si on est en bas de la moyenne mondiale de ce côté-là.
Vous avez parlé tantôt du directeur du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval, M. Gary Kobinger. Lui dit que, tu sais, il risque d'en avoir un autre, puis celui-là qu'on a là, c'est pas si grave. Ma question, M. Quirion, là, 10 ans, v'là 15 ans, y en a-tu quelqu'un qui a dit, c'est-tu vrai les rumeurs qu'il y en a qui avaient prédit que le coronavirus, le virus chinois, allait nous frapper toute la société puis qu'il allait avoir une purge là au niveau planétaire des gens qui sont plus faibles? C'est-tu vrai ça? C'est-tu du fake news ou s'il y a quelqu'un qui l'avait calé?
Finalement, c'est sur la base qu'on avait eu les problèmes qu'il y avait eu, la pandémie qu'il y avait eu avec le SRAS. Là, c'est un membre de la même famille que le COVID-19. Et ça, c'est 2005-2006. Et encore une fois, des gens, des experts comme Garé, va dire ça va arriver encore, il va en avoir d'autres. Est-ce qu'on peut dire c'est dans un an, c'est dans 10 ans, c'est dans 25 ans? On ne le sait pas, mais il va en avoir d'autres. Une fois que la pandémie SRAS a été passée, et dans certains pays, ça a été dramatique, même nous, à Toronto, ça a été dramatique. On s'est relâché. Finalement, c'est passé. On fait ouf. On a survécu, entre guillemets. Et là, on n'a pas investi assez dans la recherche fondamentale pour comprendre ces virus-là. On n'a pas gardé des capacités assez importantes de production de vaccins, de production de médicaments. Donc, j'espère que cette fois-ci, on va apprendre un peu plus, qu'on va être mieux préparé si jamais il y en a un autre qui vient dans quelques années.
En terminant, c'est-tu vrai que ça va bien aller?
Oui. Moi, je suis toujours assez optimiste. Et c'est certain qu'on regarde beaucoup à chaque jour. On a des conférences de presse de nos premiers ministres, tout ça et tout ça. Puis on focus beaucoup sur le nombre de cas positifs et ça augmente rapidement. On devrait aussi focusser sur ceux qui s'en sortent bien. Hein, le nombre de décès est quand même assez bas. C'est, ça fait qu'il y a 90-95% et même plus de la population des gens infectés qui survivent très bien. Donc, peut-être aussi avoir une fois de temps à autre cette statistique-là qui est peut-être plus positive que de focusser sur les décès.
Monsieur Quirion, ça a été un réel plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. C'est vraiment apprécié. Il y a des gens qui se posent plein de questions. Vous avez répondu certainement à plusieurs de ces questions-là. Et au plaisir de vous reparler bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Rémy Quirion, c'est le scientifique en chef du Québec. J'ai envie de vous dire que quand tu entends ça, si après tu prends plus ça au sérieux, ben t'as un problème. Hey, c'est pas de la petite bière, là. Ça, c'est éduqué, là, jusqu'au bout des ongles. Ça fait de la recherche, là, à l'année longue. Ça lit des publications scientifiques à temps plein. C'est informé comme ça se peut pas. Ça a levé le flag, ça, pour dire aux gens, « Hey, attention! Mm-hmm. » Puis ça le lève encore. Puis lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut qu'on respecte les directives, il faut qu'on s'isole, il faut qu'on respecte la distanciation sociale. Il a répondu à quelques-unes de vos questions. Il a défait quelques fake news, évidemment. Restez là, 7h40, dans quelques instants, quelques minutes, qu'on va passer avec le maire de la pêche, M. Guillaume Lamoureux. Restez là.